Les gros dossiers du jour, ce qui se passe dans notre ville. Tout ce que vous devez savoir. On en jase. 100% parler. Tout l'été.
Merci à notre producteur Tommy Fontaine pour cet excellent montage de 3 minutes de la carrière de Marc Messier. Je reprends les paroles d'un auditeur. Ah, la carrière de Marc Messier, ce n'est que du bon. Tellement, il nous a fait rire, nous a fait pleurer, nous a divertis. Quel artiste extraordinaire qu'on vient de perdre dans ce mardi 7 juillet sur Québec. Vous voulez nous écouter? L'application Boulevard 101, c'est la meilleure façon de le faire. Disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez également nous écouter via la web radio au blvd.fm. Et avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et on apparaît dans vos oreilles. À ne pas manquer 16h30 dans le retour avec Audrey, Antonine et Véronique Bergeron. Claude Meunier, le concepteur de la petite vie, l'humoriste, le ding et dong du Québec, sera là pour parler justement de la carrière de son grand chum, Marc Messier. Alors, entrevue à ne pas manquer, 16h30 dans le retour avec Audrey Pinchot, Véronique Bergeron et Antonine Iaccarini. Pascal, avant qu'on passe à notre invité, Chloé Fauchon, candidate du Parti québécois dans Louis-Hébert, il y a encore des problèmes dans la circulation.
Oui, c'est un dur après-midi. Je vais répéter que sur la 138 Est et Ouest, donc sur le boulevard Sainte-Anne, à la hauteur de la rue Louis-Jobin, il y a une voie sur deux fermée dans les deux directions. Il y a un véhicule en feu. Là, il est éteint. Les services d'urgence, par contre, sont sur place, fait que c'est sûr que ça ralentit le secteur. Il y a aussi un autre incident, celui sur l'autoroute 40, direction Est, fermeture sortie pour Donnacona. Il y a un incident. Ça s'est colmaté du côté d'Henri IV, mais ça a beaucoup ralenti le secteur. C'est super difficile, encore une fois, dans le coin de Taniata, sur la rive sud, sur l'autoroute 20. Là. Il y a eu un incident un petit peu plus tôt dans cet après-midi, mais ça a créé un trafic assez monstre. Là.
Merci beaucoup, Pascal CV. On est en compagnie de Chloé Fauchon, candidate du PQ dans Louis-Hébert. Chloé, comment vas-tu?
Bien, ça va très bien, merci. Ouais,
cool. Chloé, comment ça se passe, la campagne électorale jusqu'à présent?
Ça se passe super bien. Ouais. Je considère que j'ai une belle présence sur le terrain depuis le mois d'avril que c'est commencé, que je vais en porte-à-porte, que je participe aux activités dans la circonscription, que je suis à l'écoute de ce que les gens ont à me partager, de leurs préoccupations, de leurs besoins. Puis c'est vraiment c'est très agréable.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi, t'es qui?
Ben moi, je suis avocate de formation et de profession. J'ai pratiqué le droit pendant près d'une quinzaine d'années déjà, je le précise. Bien là, les gens sont à la radio, ils ne peuvent pas me voir, mais plusieurs personnes me disent que j'ai de l'air jeune, donc j'insiste sur
le fait que je confirme.
J'ai 15 ans.
T'as quel âge? 25, 26?
Je vais avoir 37. Mais merci, c'est un compliment.
Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Mais donc, c'est ça, près de 15 ans d'expérience dans le même domaine juridique, c'est-à-dire le droit public. Mm-hmm. Moi, je me suis spécialisée pendant toutes ces années-là en gouvernance municipale, en droit de l'environnement, en aménagement du territoire et urbanisme principalement, puis en fait, toutes les questions de droit qui se rapportent aux organismes publics.
Donc, gouvernance municipale. C'est intéressant. Comment tu trouves que notre ville de Québec est gérée à l'heure actuelle?
Bien, je ne me prononcerai pas sur ça, effectivement. Mais vous le savez peut-être, moi, je suis avocate à la Ville de Québec présentement depuis la dernière année. Donc, je suis à la division du droit public.
Fait une avocate à la division du droit public?
Bien, je vous dirais que moi, dans mon cas, on est toute une équipe, là, mais ça m'a permis dans la dernière année de porter une attention particulière à tous les projets de loi qui sortaient, qui impactaient les pouvoirs municipaux ou la réalité. Les réalités municipales et communautaires et d'analyser l'impact de ces projets de loi-là, puis de formuler des représentations pour la ville dans des mémoires, par exemple, puis d'accompagner les élus en commission parlementaire pour faire valoir justement les préoccupations de la ville par rapport à ça.
Ben, parlons de tes opposants qui sont depuis 8 ans justement à la tête de la province, la CAQ, dans leur nouveau projet de loi qu'ils ont fait dans l'année que tu étais là. Y a-tu des choses que tu as faites, Colin, qui nous compliquent la vie?
C'est difficile à dire. Il y a plusieurs, attentes du côté des villes. Je vais parler des villes en général. En termes de pouvoirs municipaux, pour répondre aux crises auxquelles les villes font face en première ligne, puis on parle ici évidemment de la crise du logement, la crise de l'itinérance, et il y en a d'autres. Mais donc, faut savoir que dans ces domaines-là, on pourrait inclure également l'immigration là-dedans, les villes n'ont pas de pouvoir direct pour intervenir et ça complique beaucoup. La façon dont on peut apporter des réponses. Et c'est ce que j'aime particulièrement du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que sur ces enjeux-là, il y a clairement un leadership provincial qui se... Puis on en a besoin. C'est-à-dire qu'il faut avoir la réflexion. Oui, on peut réfléchir à savoir est-ce qu'il faut donner davantage de pouvoir aux villes, mais davantage de pouvoir vient quand même avec le même problème du manque de ressources. Mm-hmm. Mais de savoir qu'on a un État qui veut prendre le leadership parce qu'après tout, c'est dans sa cour, ces problèmes-là, tant qu'ils n'ont pas été délégués aux municipalités. C'est une responsabilité étatique.
Pourquoi avoir choisi le provincial, Chloé Fauchon, quand on connaît si bien le municipal? C'est-tu parce que pour vous, on peut faire plus bouger les choses en ce moment au provincial?
Tout à fait. En fait, c'est ça. Il faut comprendre que les institutions municipales, c'est des bébés de la loi. Il n'y a rien qui peut être fait au niveau municipal si ce n'est pas une commande ou un mandat qui vient de l'État québécois. Donc, ça, je trouve que pour pouvoir changer les choses puis améliorer les choses d'un point de vue de la gouvernance locale, il faut comprendre comment ça fonctionne. Puis,
le faites-vous pour la Ville de Québec ou vous le faites? Pour vous, comprenez-vous? Parce que si vous êtes au municipal depuis si longtemps, dans vos enjeux, depuis un an vraiment à la Ville de Québec, puis vous voyez que ça ne bouge pas assez parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de droit dans tout ça, est-ce que c'est parce que vous avez vu les mains liées de la Ville de Québec, des mairies de Québec, puis vous vous êtes dit non, il faut aller au provincial?
Ah, mais certainement. Mais je veux. Puis là, ça m'amène à parler de l'indépendance du Québec. Premièrement, l'indépendance du Québec, elle ne se fera pas au niveau local, là, on se comprend là-dessus. Là. Clairement, il y a une opportunité pour la gouvernance municipale avec l'indépendance du Québec. Puis ça, c'est un exemple. Mais sur le plan de l'aménagement du territoire aussi, sur le plan du droit de l'environnement aussi. T'sais,
de quelle façon on va avoir plus d'opportunités pour le droit municipal avec un Québec pays qu'un Québec province?
Justement, j'y arrive. C'est que, bon... D'abord, moi, je dirais que d'un point de vue intuitif, émotif, j'ai toujours été en faveur de l'indépendance parce que pour moi, c'est une question d'autodétermination. Quand on a une culture unique, quand on se distingue dans le monde comme peuple, bien, on devrait avoir le droit de décider les choses pour nous. Mais je suis... Comment dire? Ces arguments émotifs-là sont devenus vraiment très rationnels par ma pratique du droit. Quand j'ai commencé justement à pratiquer en droit public, j'ai rapidement vu c'était quoi les enjeux puis comment on pourrait en tirer des bénéfices au Québec. Puis si on prend des exemples concrets, là, pour le financement des infrastructures d'envergure au Québec, puis on n'est pas obligé même de parler d'infrastructures d'envergure, on pourrait parler simplement des infrastructures de base municipales.
L'eau, les égouts, les rues.
En raison du système... De la fiscalité, de la façon dont c'est prévu dans la Constitution et tout ça, bien, il y a une dépendance des institutions municipales à une participation financière du gouvernement fédéral. Ça ajoute, alors que le gouvernement fédéral n'a absolument aucune compétence pour gérer les institutions municipales, ça, on s'entend là-dessus. Donc, ça fait en sorte que pour agir localement, on a besoin... d'inclure dans la discussion un gouvernement additionnel, un gouvernement de trop.
Ben, le meilleur exemple est le tramway. Là.
Ben, c'est là que je m'en allais. Non, mais exactement.
Mais c'est le meilleur exemple. On a attendu après l'argent du fédéral.
Du
je sais pas comment
il faut attendre, puis il faut se plier à des exigences qui ne prennent pas en considération la réalité du terrain que les décideurs locaux sont les mieux placés pour connaître. Donc, ça retarde le financement de projets, ça retarde la mise à niveau puis le déploiement de nouvelles infrastructures. Ça, c'est sûr. Donc, meilleure agilité à ce niveau-là. Financement plus direct, plus rapide. Sur le plan de l'aménagement du territoire aussi, voulez-vous qu'on parle du dossier du TGV? Parce que,
mais là, vous êtes contre au PQ le TGV.
Bien, on n'est pas contre le transport collectif, on n'est pas contre un projet de TGV, mais on est contre ce projet-là spécifiquement. Puis un des enjeux...
Mais là, pourquoi vous êtes contre? Juste parce que c'est un grand train canadien?
Bien non, absolument pas. C'est parce que ce projet-là vient avec un investissement, une dette auquel les Québécois vont devoir contribuer qui est faramineuse. Là. C'est astronomique. On parle d'une part pour le Québec d'environ évalué à 40 milliards de dollars. Puis
ça, c'est en prenant en compte qu'il va coûter 200 milliards.
Oui, tout à fait.
Mais Joël Lightbound nous dit qu'il va en coûter 90.
Bien, nous, on ne demande qu'à avoir davantage de données, d'informations et d'études pour mieux comprendre. On a très peu d'informations sur ce projet-là.
Ça, je vous l'accorde. Mais le 200 milliards, je trouve qu'il est tiré par les cheveux.
Bien, notre collègue qui est au Bloc québécois, Jean-Denis Garon, qui est économiste, se fonde sur l'analyse de différents projets passés pour arriver à cette estimée-là. Et donc, on peut très bien considérer que c'est une fourchette de prix probable. Puis ce que j'allais vous dire, c'est que étonnamment, on arrive au Québec à un déficit au niveau de l'entretien de nos infrastructures de 45 milliards. Donc exactement le même montant qu'on s'apprête à donner, à s'endetter pour couper un nouveau ruban, alors qu'il y a un consensus social au Québec que cet argent-là, on en a besoin pour rénover nos hôpitaux, pour nos écoles, pour nos routes,
ça veut-tu
pour
dire
notre
que dans
transport
un
collectif à nous.
Est-ce que ça veut dire que dans un premier mandat du PQ, on va couper à peu près pas de ruban puis on va rénover nos infrastructures?
Bien, c'est une priorité. C'est une priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ruban qui va être coupé. Nous, on est clairement en faveur du projet de tramway. Puis ça, on considère que
phase 2 et 3 aussi?
Bien, là, on ne se prononcera pas, on se prononcera pas là-dessus. Il n'y a même pas eu d'études de ces... Je veux dire, ce projet-là n'est pas... ces phases-là, à ma connaissance, ne sont pas autorisées. Et donc, là, on parle de la portion du projet...
Oui, oui, la portion 1.
Qui est financée, dont le financement est bouclé, qui est autorisée et qui va de l'avant, les travaux qui sont commencés. Donc ça, on parle d'une solution pour améliorer la mobilité, la fluidité de la circulation à Québec. C'est une solution. C'est la colonne vertébrale de notre réseau de transport structurant, ce qui va nous permettre finalement aux gens de se déplacer dans le quotidien sans dépendre de la voiture. Et ça va beaucoup... ça va être bénéfique pour les gens de Louis-Hébert parce que c'est pas tous les gens de Louis-Hébert qui vont y avoir accès facilement. On s'entend, là, ça
votre
commence à le gendre.
Du moins, vous êtes candidate aux prochaines élections
exact.
Pour le PQ là-bas.
Parce que plus... Il y a des gens qui vont pouvoir le prendre à partir de Legendre. Plus il y a des gens qui vont pouvoir le prendre pour se déplacer dans le quotidien, plus ça va enlever des véhicules.
Alors, vous êtes pour, dans conception de votre demande de candidature. Pas Saint-Pierre Plamondon, avocat, Pascal Paradis, avocat, vous êtes avocate, Chloé Fauchon. Y a-t-il quelque chose à voir là-dedans? Vous souriez. Y a-t-il quelque chose à voir là-dedans?
Faut que je fasse mon droit pour être au PQ.
Êtes-vous amis? Avez-vous étudié ensemble? Est-ce qu'on vous a recruté parce que vous êtes comparses de longue date?
Non, absolument pas du tout. J'avais aucun lien avec ces personnes-là. Mais je dois vous dire, par contre, que de les voir avec leur parcours professionnel, prendre les risques qu'ils ont pris pour le Québec, pour défendre la cause du Québec, et de les voir ensuite à l'œuvre, avec, puis là, c'est peut-être une déformation professionnelle, avec tout le professionnalisme et la rigueur que je leur reconnais, moi, ça m'a donné le goût d'embarquer avec eux. Moi, ça m'a parlé, je me suis reconnue là-dedans. Puis il faut dire que Pascal Paradis, bien, on ne se connaissait pas personnellement, mais moi, comme jeune avocate, je savais très bien c'était qui, dès le jour 1 de ma pratique. Là. Je me souviens encore... à une cérémonie de la rentrée judiciaire où c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Lui, il s'en rappelle pas. C'est juste pour vous dire à quel point qu'on se connaît pas. Là. Moi, je m'en souviens. Lui, il s'en souvient pas.
Vous avez marqué pourquoi?
Il venait de recevoir un prix qui lui était décerné par le barreau pour tout le travail qu'il avait fait dans la fondation puis dans le développement d'Avocats sans frontières, alors qu'il avait eu une pratique très bien établie et je pourrais même ajouter lucrative en cabinet privé pendant 10 ans avant. Moi, je me disais, waouh, c'est fou, cette personne-là a fait des choix fondés sur ses valeurs, sur un intérêt qui le dépasse lui-même, qui dépasse son intérêt personnel. Puis ça m'a inspiré beaucoup. Puis nécessairement, ça l'a teinté ma vision des choses. C'est comme si je me suis dit, tu sais, oui, moi, je suis avocate, je défends des clients, je vais plaider des dossiers. Mais ultimement, j'ai une conception de la justice, un idéal de justice dans la société que j'ai développé à travers toutes ces années-là. Puis j'ai des valeurs aussi qui rejoignent très bien celles de Pascal d'ailleurs. Donc, je pense que ça m'a influencée, honnêtement. Mais pas parce que on se connaissait personnellement, ouais. mais parce que quand on voit aussi jeune dans notre carrière des parcours qui nous inspirent comme ça, c'est sûr que ça a une influence.
En terminant, on a parlé beaucoup de transport structurant. On a parlé d'itinérance. En passant, le plan de Paul Saint-Pierre-Pamelon sur l'itinérance, je lui ai dit en honte, je le salue. C'est un excellent plan de lutte à l'itinérance. Présentement, je trouve que c'est le meilleur qui a été présenté par les partis politiques. Sinon, une dernière priorité pour la région de Québec, si vous êtes élu dans Louis Hébert?
Hey, ça, c'est une dure question. Pour... Combien de temps il nous reste?
pas beaucoup, mais...
Ah oui. Allez-y. On a parlé de mobilité, on a parlé de...
itinérance.
Bon, moi, je vous dis, là, première priorité pour Louis Hébert, c'est vraiment, moi, je veux travailler pour améliorer la qualité de vie des gens. On l'a vu.
Comment qu'on fait ça?
Bien, il y a une partie de notre qualité de vie qui dépend beaucoup de notre mobilité. Ça, on l'a parlé, j'y reviendrai pas. Mais la qualité de vie des tout-petits jusqu'aux aînés. Puis des tout-petits, ça commence en milieu de garde.
En effet.
Là, il y a 4000 enfants dans la région qui attendent une place en CPE. Pour nous, au Parti québécois, c'est clair, c'est ce réseau-là qu'il faut travailler à boucler. C'est ce que les parents préfèrent, c'est ce qui est le mieux pour les enfants. Puis ça, ce sera assurément une priorité. Ensuite, bien, il y a les aînés. Puis je vous l'ai dit, là, j'étais en porte-à-porte depuis avril dans la circonscription. Et dans la circonscription de Louis Hébert, bien, c'est une population qui est relativement vieillissante. Donc, j'ai rencontré plusieurs aînés et il y a une préoccupation qui revient constamment. L'augmentation du coût de la vie, vraiment. Puis on comprend.
C'est global, là. Oui.
C'est clair. Mais là, cet enjeu-là, il faut, pour ces personnes-là, puis ça va bénéficier à beaucoup plus que les personnes aînées, mais il faut s'attaquer à l'abordabilité du logement. Donc, il faut... Puis ça, du même coup...
Puis on fait comment ça, l'abordabilité
du
logement?
Il faut investir comme gouvernement. Il faut prendre nos responsabilités comme État québécois dans la construction...
On subventionne-tu une couple d'entrepreneurs privés qui en montent déjà des condos pour qu'ils donnent du logement abordable?
Il faut financer du logement abordable et du logement social.
Mais ça, c'est juste le gouvernement qui en fait ou ça peut être des entrepreneurs privés qu'on aide?
Je pense qu'il faut être ouvert à toutes les formes de véhicules qui sont prêts et intéressés à monter des projets comme ça. Vous donnez un exemple où on parle du privé et c'est sûr que le... Oui, mais il y a d'autres formes aussi d'organisations qui pourraient mener à bien ces projets-là. Puis on a plein de beaux exemples, là, des coopératives d'habitation, par exemple, puis Utile, si mon souvenir est bon, qui construit du logement étudiant aussi abordable. Donc, il y a cette question-là. Puis du même coup, c'est transversal. On va s'attaquer à la crise du logement, puis ça va permettre de travailler dans le bon sens pour l'itinérance. Donc, tout ça, là, c'est interrelié. Ouais. Ensuite, le panier d'épicerie, le coût du panier d'épicerie. Bien, nous, au Parti québécois, il y a un plan pour ça. D'ailleurs, c'est quand même
on le réduit
tendance.
Comment, ce panier d'épicerie-là?
Parce que c'est dur d'avoir un bras de fer, là, envers les grandes industries.
Bien, il faut revoir la réglementation dans ce sens-là. Puis après, bien, il faut s'assumer dans nos valeurs. Puis nous, pour nous, s'alimenter, ça ne devrait pas être un luxe.
Ça veut dire quoi, s'affirmer dans nos valeurs?
C'est
parce que ça veut dire
dans nos valeurs, ça veut dire qu'on
les entreprises, les épiceries, les gens qui
s'en mettent
en profit.
Ça veut dire qu'on veut stimuler davantage la concurrence.
Puis comment qu'on fait ça, stimuler davantage la concurrence?
Mais je pense qu'il va... Je rentrerai pas dans les détails avec vous aujourd'hui, évidemment, mais ce qui est mentionné dans le plan qui a été proposé très récemment par Paul, c'est de rouvrir la loi sur la protection du consommateur puis venir intervenir à ce niveau-là.
Okay.
Donc, il y aura certainement des moyens
On aide-tu nos agriculteurs pour que les fraises coûtent moins cher, les pommes, etc.?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bien, tu sais, nos agriculteurs tirent le diable par la queue là, à l'heure actuelle. Est-ce qu'on les aide avec, par exemple, en réduisant des taxes au carbone ou en leur permettant...
Bien, ça, le parti a déjà pris position en lien avec la taxation carbone. Tu sais, je pense que comprendre la réalité, faut comprendre la réalité des différents acteurs, notamment des agriculteurs, pour proposer des solutions qui sont réalistes puis qui vont être adaptées. S'il n'y a pas d'alternative pour la culture dans les champs que d'utiliser de la machinerie à essence, puis qu'on sait dans quelle situation ils sont d'un point de vue économique présentement, situation qui va être rempirer avec le projet du TGV, on s'entend, là, parce que ça va fendre la zone agricole en deux. Non, mais c'est fou. Ils m'en ont parlé, là. Clairement, j'ai rencontré l'UPA dans la région, puis c'est grave, là, l'impact que ça va avoir sur le plan économique pour nos agriculteurs dans la région, un projet comme celui-là qu'on tente de nous enfoncer dans la gorge. Je vous donne un exemple clair, OK? C'est très parlant. Il faut savoir que le rail là, va être clôturé. Là. Ça va être, je ne sais pas si la clôture va être bétonnée, mais ça va être impossible de la traverser. À partir du moment où on fend la zone agricole en deux, puis qu'il y a un agriculteur qui veut donc accéder à la deuxième partie de sa terre pour pouvoir
la cultiver.
Ouais. Ben il va falloir qu'il fasse 10 km avec sa machinerie agricole pour pouvoir arriver à un point d'accès qui va lui permettre d'avoir accès à l'autre côté de sa terre. 10 km en machinerie agricole pour changer de bord, puis après ça pour retourner de bord, puis pour voir... C'est épouvantable. Là, on va en dépenser encore plus du carburant dans un exemple comme celui-là. Donc oui, je pense qu'il y a une grande sensibilité au Parti québécois à la réalité des agriculteurs au Québec, puis on est certainement un allié pour eux.
Chloé Fauchon, candidate du Parti québécois dans la circonscription de Louis-Hébert. On se redonne rendez-vous. C'était une conversation très, 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 très intéressante. Je pense que vous êtes à la bonne place en politique.
Bien, merci.
Ouais, c'était votre première entrevue?
Bien, c'était ma première, mais j'espère qu'il y en aura d'autres.
C'est pas pire, hein?
Pendant la campagne. Là, en plus, vous êtes seul.
Des
dans
points
le Weber
concrets,
en
plus.
Comme vous êtes seul, en fait, pas d'adversaire.
Je n'attends que ça, connaître l'identité de mes adversaires.
En même temps,
pouvoir
c'est bon
en débattre
pour vous,
avec
non,
eux.
Ouais, on va organiser des débats à l'émission On en jase sur l'heure du midi pendant la campagne électorale. On vous invitera contre vos adversaires fantômes. Non, il va en avoir un moment donné. Bon après-midi, continuez votre excellent travail.
Merci.
Chloé Fauchon, candidate au niveau du Parti québécois dans la circonscription de Louis-Hébert. Courte pause à l'émission d'En jase. Par la suite, on discute avec Véronique Thibault, mère de famille à qui on avait parlé en novembre dernier. La petite Jasmine, une maladie rare au poumon. Bien là, Pascal, on est rendu le 7 juillet. Puis même si elle a rencontré Lionel Carman, il n'y a pas de débouché. Oui. Fait qu'elle est rendue à faire un GoFundMe. On en est là au Québec. Paye des impôts, mais on a besoin de faire un GoFundMe pour que nos enfants soient en santé. Ça marche pas, cette affaire-là.
Jusqu'à